Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Alors nous nous intéressons cette année au prophète Jérémie. Et après avoir resitué dans les premières émissions le prophète dans son contexte historique, nous avons commencé la lecture du texte biblique. D'abord par la vocation de Jérémie au premier chapitre, et puis nous avons entrepris de lire les chapitres suivants qui introduisent la mission du prophète, en constatant déjà la complexité de la construction de ces textes. Parce qu'on ne peut pas trouver ici de plan logique d'exposé, comme nos mentalités d'occidentaux cartésiens nous en ont donné l'habitude. Nous sommes devant un assemblage de petits textes de genres différents. Un mélange d'annonces de jugement, de discours, de retour sur ces jugements, les jugements déjà accomplis, ou d'oracles proclamant un possible salut à venir, mélangés à des éléments biographiques, et même l'enchaînement de ces blocs de textes paraît parfois saugrenu, ou du moins très compliqué à comprendre, d'autant qu'il y a des indications chronologiques, mais elles sont incohérentes.
Oui. Il faut suivre quelquefois.
Donc voilà, ne pas s'affoler. Les spécialistes discutent encore pour essayer de trouver comment ces textes ont été progressivement assemblés au fil du temps pour former finalement ce qu'on appelle le livre de Jérémie. Mais en ce qui nous concerne, nous nous contentons de lire le texte tel qu'il apparaît en respectant les répétitions ou les apparentes contradictions. Cela ne nous empêche pas de saisir le sens global de l'action et des paroles du prophète. Oui.
Alors, nous avions achevé la lecture du chapitre 5 la dernière fois, hein, tout en constatant quand même que les chapitres de 2 à 6 constituaient une certaine unité, dans lequel donc les chapitres de 2 à 4, d'abord dénonçaient l'infidélité d'Israël et de Juda à l'alliance avec leur Dieu, et à partir du chapitre 4, Jérémie enchaînait les exhortations à la conversion et les menaces jusqu'à annoncer le jugement qui va venir sanctionner toutes les trahisons. Alors, nous continuons donc à présent par le chapitre 6, hein, puisqu'on a dit qu'on nous, on suivait l'ordre des chapitres, et nous retrouvons le même genre de paroles. Alors, par exemple, donc verset 8 au chapitre 6, il s'agit là de la parole de Dieu. Donc, je vous lis. « Corrige-toi, Jérusalem, de peur que je me détache de toi, que je te réduise en lieu désolé, en terre inhabitée. » Et un petit peu plus loin, donc dans le chapitre 6, le verset 10, là, c'est une réflexion de Jérémie. Je vous la lis. « Voici que leur oreille est incirconcise, ils ne peuvent pas être réceptifs. Voici que la parole du Seigneur est devenue pour eux une insulte, ils n'en veulent pas. » Et un petit peu plus loin, toujours dans notre chapitre 6, mais versets 13 à 15, là, c'est une réflexion de Dieu, plutôt désabusée. Je vous la lis. Du plus petit jusqu'au plus grand, ils sont tous assoiffés de profit. Du prophète jusqu'au prêtre, ils s'adonnent tous au mensonge. Ils ont bien vite fait de remédier au désastre de mon peuple en disant « tout va bien » et rien ne va. Par leur abomination, ils se couvrent de honte, mais ils n'éprouvent pas la moindre honte. Ils ne savent même plus rougir. Aussi tombent-ils comme tous les autres, ils trébucheront au temps où je les visiterai, dit le Seigneur.
Voilà, on commence à comprendre pourquoi Jérémie va se faire haïr de tous. Il porte quand même une parole extrêmement sévère et critique, et sur tout le monde, hein, y compris les autres prophètes et les autres prêtres. De plus, il ne fait pas que dénoncer les perversions, il annonce aussi les conséquences. Un peu plus loin, chapitre 6, verset 19, « Voici que je vais faire venir sur ce peuple le malheur ». Le fruit de ces machinations, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Donc en disant que le malheur qui va s'abattre est la conséquence du comportement de son peuple, le fruit de ces machinations, Dieu lui-même explique là qu'il ne veut pas engendrer le mal dans le monde, mais que le mal est le résultat inévitable du non-respect de la loi. Et donc, si les hommes acceptaient, à l'inverse, de se mettre à l'écoute des volontés divines et d'y obéir, il n'y aurait pas autant de souffrance. Le vrai rôle du prophète, en fait, n'est pas d'être un oiseau de mauvais augure, mais de ramener le peuple vers l'alliance avec son Dieu. Ou du moins, il essaye de faire entendre l'appel de Dieu. Mais nous voyons bien que ça ne passe pas. Ce sont ces oppositions qui vont engendrer le malheur. Et nous voyons déjà dans ce chapitre 6 apparaître un thème qui va se déployer ensuite. Le thème de l'absurdité des rites religieux quand ils ne correspondent pas à une conversion sincère, comme dit le verset 20. Que m'importe l'encens importé de Saba, les aromates des pays lointains? Vos holocaustes ne me plaisent pas, vos sacrifices ne me sont pas agréables, dit Dieu.
Voilà, et c'est là un thème essentiel de la prédication de Jérémie. Il dénonce une décadence religieuse que le Dieu d'Israël et de Juda ne peut plus supporter. Alors, au début du chapitre 7, Jérémie est envoyé prêcher à la porte du temple pour haranguer ceux qui viennent y prier. Et voici ce qu'il dit. Donc je vous lis les versets 3 et 4. « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes pour que je puisse habiter avec vous en ce lieu. Ne vous bercez pas de paroles illusoires en vous répétant « Temple du Seigneur, Temple du Seigneur ». C'est ici le Temple du Seigneur. » Alors, ce qui est en cause ici, c'est une religion un petit peu devenue superstitieuse qui vénère le lieu consacré à Dieu, mais qui ignore les exigences principales de la religion, c'est-à-dire à se transformer soi-même pour répondre aux attentes du Seigneur. Alors je vous lis la suite, qui est là très explicite, donc les versets 5 jusqu'à 7. « Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'émigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous ferai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. » Voilà, donc la présence de Dieu dans son temple n'est donc pas inconditionnelle. Elle dépend clairement de l'état d'esprit des fidèles. S'il se désintéresse des commandements de Dieu, à son tour, lui, risque bien de s'absenter de son temple.
Oui, et ce qui est effrayant dans ces textes, c'est qu'ils semblent intemporels. De tout temps, et même aujourd'hui, cette tentation existe de se contenter des rituels extérieurs, de les utiliser comme des gris-gris magiques pour obtenir des faveurs de Dieu, sans rien devoir changer à sa vie. Depuis Jérémie, on retrouve toujours les mêmes hypocrisies de rites religieux qui donnent l'illusion de la vertu, une vertu d'apparence extérieure, alors qu'en réalité, l'âme ne s'implique en rien dans la démarche religieuse. La suite du texte du chapitre 7 précise encore ce problème. Je vous lis. « Mais vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi ? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations? Est-elle, à vos yeux, une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. Alors j'espère que vous avez reconnu au passage la phrase que Jésus lui-même a reprise quand il s'est mis en colère dans le temple. Nous trouvons cela par exemple dans Matthieu chapitre 21 verset 13 qui dit « Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, or vous, vous en faites une caverne de bandits. » Jésus a d'ailleurs une expression aussi ailleurs dans un texte, une expression très forte pour désigner l'hypocrisie des apparences, puisqu'il traite les scribes et les pharisiens de sépulcres blanchis, blancs à l'extérieur et au-dedans pleins d'ossements et de pourriture. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous parlons du prophète Jérémie. Nous sommes au chapitre 7 quand Jérémie s'en prend aux pratiques hypocrites qui ont lieu au temple. C'est Dieu qui l'a mandaté pour prévenir le peuple de Juda, donc les tribus du sud, pour leur dire qu'elles ont tort de se croire à l'abri dans le temple de Jérusalem ou protégées par la sainteté du lieu, car l'exemple du nord du pays devrait leur servir de leçon. Voilà ce que dit le texte, donc chapitre 7, verset 12, c'est Dieu qui parle. « Allez donc à Silo, ce lieu qui était le mien, où j'avais fait autrefois demeurer mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. » Ce verset est donc un rappel de l'invasion du nord du pays par les Assyriens qui ont détruit le temple du nord, celui qu'on appelle Silo, et ont exilé le peuple en moins 722. Et voici la suite des paroles adressées cette fois à Juda, le sud. « Puisque vous avez commis tous ces actes inlassablement, je vous ai parlé sans que vous écoutiez, je vous ai appelé sans que vous répondiez. Ce que j'ai fait à Silo, je le ferai dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et dans laquelle vous mettez votre confiance, ce lieu que je vous ai donné à vous et à vos pères. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la race d'Éphraïm. » Donc Éphraïm, c'est un nom pour donner un résumé des tribus du Nord. Jérémie est donc obligé de se tenir à la porte du temple pour en annoncer sa destruction prochaine. Ça ne devait pas vraiment être une situation très confortable.
Non, non, pourrait-on imaginer une situation pareille aujourd'hui, hein? Voilà, on imagine. Un homme se tenant aux portes donc d'une cathédrale pour accuser les fidèles qui entrent d'être des hypocrites uniquement attachés au rite extérieur. J'imagine. Et si en plus, il annonçait que Dieu allait les rejeter et bientôt détruire le bâtiment? Je ne crois pas que cet homme serait mieux accueilli à notre époque que du temps de Jérémie. Je me dirais même plus, je crois que ce serait pire. Ce qui ne veut pas dire qu'il aurait complètement tort d'ailleurs, car il y a certainement toujours une part de rituel de façade dans nos célébrations. Qui pourrait assurer d'être tout le temps entièrement sincère et profond? Nous avons tous des moments où la superstition nous sert de béquille. Mais ce qui est grave, c'est de se servir des rites pour ignorer l'essentiel, qui est de se remettre en question pour ne plus pécher. Et là, Jérémie a mis en lumière d'innombrables turpitudes chez les fidèles du temple. Alors, il parle de meurtre, vol, mensonge, injustice, idolâtrie, et voilà. Et on arrête là la litanie. Car la première fonction du prophète est bien de dévoiler les péchés. Et ensuite, il appelle à la conversion. Et c'est seulement parce que les appels à conversion ne rencontrent aucun écho, sauf peut-être de l'hostilité de la résistance, qu'alors Dieu se met en colère. Comprenons par l'expression « se mettre en colère » que le mal finit forcément par se retourner contre ceux qui le commettent. Et ça fait partie des lois de la création.
Et oui, la suite du chapitre 7 revient d'ailleurs sur les mêmes accusations que nous avons lues au chapitre 6 pour dénoncer chez tous l'appât du gain, la violence et l'hypocrisie, et chez les prophètes et les prêtres, les mensonges, ceux qui font croire que tout va bien, tout va bien, alors qu'en réalité, on est au bord du gouffre. Il y a comme un problème de surdité volontaire devant lequel, malheureusement, le prophète semble impuissant. Personne n'a envie de voir les choses telles qu'elles sont dans toute leur gravité. On préfère s'illusionner et se rassurer avec des rites religieux, des sacrifices et des holocaustes. Et la Bible est remplie de situations du même genre. Je pense par exemple au premier livre de Samuel, chapitre 15. Le prophète Samuel dit ceci au roi Saül. Verset 22-23. « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole ? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché, comme la divination. La rébellion est une faute, comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'as rejeté. » Donc on a l'impression qu'il s'agit d'un problème permanent, en tout cas dans la Bible. ont désobéi à Dieu, tout en essayant de l'amadouer par des cérémonies et des sacrifices. Mais Dieu n'est pas dupe. Il attend la conversion sincère des cœurs.
Ouais, je crois que là, il s'agit d'un problème très difficile à résoudre. Celui du juste rapport entre le rite et la vie ordinaire. L'idéal serait que les cérémonies soient efficaces, hein, comme pédagogie de la transformation personnelle. Tu peux que le formalisme extérieur aboutisse à une intériorisation vivante où chacun développe un réel chemin spirituel. Il est sans doute inévitable qu'il y ait au début un décalage qui privilégie le cérémonial réglementaire, car il faut bien commencer l'apprentissage quelque part. Mais Jérémie vient pointer comme une ambiguïté dans cette méthode rituelle. Elle permet de rester vraiment à la surface des choses et de s'en contenter surtout. Nous pouvons hélas rencontrer le même genre de difficultés aujourd'hui. L'institution Église doit jouer un rôle d'éducateur de la foi, hein, qu'elle encadre avec une codification et des règles précises, mais elle n'évite pas le danger de scléroser le développement naturel et spontané de la foi. On risque tellement d'engendrer des comportements répétitifs et surtout vides de sens et de fabriquer un petit peu des automates du rituel extérieur en étouffant la sincérité de la personne. Et c'est toute la difficulté du catéchisme, hein, qu'il faut réussir le lien entre formalisme extérieur et un éveil intérieur, mais véritable. Alors, mais pour en revenir au texte biblique, apparemment, Jérémie, lui, n'a pas réussi à convaincre son peuple d'intérioriser la parole de Dieu malgré tout le mal qui s'est donné.
Oui, et il y vient alors avec une parole d'une rare violence, donnant l'image d'un Dieu exaspéré par son peuple. Je vous lis quelques versets, toujours chapitre 7, versets 21 à 24, parce qu'ils résument bien la situation. « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la viande. Pourtant je n'ai rien dit à vos pères, ni rien ordonné à propos des holocaustes et des sacrifices le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné le dos. » Je saute quelques versets, je passe au verset 33 qui annonce les conséquences de ceci. « Les cadavres de ce peuple serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre sans que personne les dérange. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les chants d'allégresse et les chants de joie, le chant de l'époux et le chant de l'épousée, car le pays ne sera plus qu'une ruine. » Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous sommes en train de lire le début du chapitre 8, cette fois du livre du prophète Jérémie, qui insiste sur l'obstination du peuple et le peuple de Juda et de Jérusalem à refuser de se convertir au Seigneur son Dieu. Je lis le verset 5 du chapitre 8. « Pourquoi Jérusalem, cette ville infidèle, s'est-elle détournée pour toujours ? Ils se cramponnent à leurs illusions et refusent de se convertir. » Et Jérémie ressent cette situation comme une terrible souffrance personnelle. Nous avons à la fin du chapitre 8 une lamentation parmi celles qui ont donné sa célébrité aux Jérémiades. Je vous en lis quelques versets. « Par la blessure de la fille de mon peuple, je suis blessé. Je suis assombri et la stupeur me saisit. N'y a-t-il pas de baume en Galade ? N'y a-t-il pas de médecin là-bas ? Pourquoi donc n'est-elle pas guérie, la fille de mon peuple ? Qui changera ma tête en source d'eau et mes yeux en fontaine de larmes pour que je pleure jour et nuit les victimes de la fille de mon peuple ? »
Et le début du chapitre 9 continue sur le ton de reproches faits à Juda, cette fois à cause de ses trahisons, de ses adultères et de ses mensonges. Car cela rend la vie sociale abominable. Alors je vais vous lire donc les versets 3 à 5 donc de ce chapitre 9. Gardez-vous chacun de votre compagnon. Défiez-vous de tout frère, car tout frère ne pense qu'à supplanter et tout compagnon sème la calomnie. Ils se jouent chacun de son compagnon, ils ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir et à pécher, de leur perversion ils ne peuvent de se détourner. Violence sur violence, tromperie sur tromperie. Voilà. Un beau chapelet. Donc, là-dedans, comment une communauté humaine pourrait-elle subsister avec une telle ambiance? Alors, c'est pourquoi la suite du chapitre 9 annonce la brutale réaction de Dieu. Donc, je vous lis les versets 6 à 8. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur de l'univers, voici que je vais les épurer, les éprouver. Que faire d'autre avec la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche meurtrière. Elle parle pour tromper. Des lèvres chacun parle de paix à son compagnon, mais en lui-même il prépare une embuscade. Et je ne devrais pas sévir contre eux? Et un petit peu plus loin, ne pas me venger d'une telle nation? Voilà donc la colère de Dieu qui s'exprime. Trop c'est trop, limites supportables ont été franchies. Donc, un petit peu plus loin, je vous lis les versets 14 à 15. Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Je vais leur faire avaler la ciguë, leur faire boire de l'eau empoisonnée. Je vais les disséminer parmi les nations que ni eux-mêmes ni leurs pères ont connues. Et je mettrai l'épée à leur trousse jusqu'à ce que je les ai exterminés.
Voilà. Donc, un Dieu courroucé qui crie sa colère par la bouche du prophète. Il faut bien avouer quand même qu'en tant que chrétiens, nous avons du mal à accepter cette violence verbale et la dureté des représailles annoncées de la part de Dieu. Comment peut-on associer ces textes avec la formule « Dieu est amour » auquel nous sommes habitués? En fait, il semble que ces expressions violentes sont accordées à la méchanceté des comportements humains auxquels ils répondent. Nous sommes dans des réactions de type loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire des réactions proportionnées au crime. Donc, c'est d'abord une question de justice, car si Dieu, on connaît cette phrase, Dieu est miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, nous la trouvons partout dans la Bible, mais cela n'empêche nullement ses exigences de justice. Et si les paroles des prophètes mandatées pour exhorter les pécheurs à la conversion restent sans effet, comment pourrait-on obtenir la transformation des cœurs, si ce n'est alors par la sanction? C'est le châtiment qui amène à réfléchir, et peut-être, j'espère, à retrouver la bonne direction, parce que ce sont les mauvais comportements qui ont entraîné la dureté des réactions. Mais cela n'empêche pas l'amour. Hein, comme dit le proverbe, qui aime bien châtie bien. Il serait impensable que Dieu permette au mal de proliférer sans réagir. Il faut bien affirmer les règles de la vie bonne telles qu'elles sont nécessaires pour la survie de l'humanité.
C'est vrai que l'injustice, le mensonge, la cruauté ne peuvent pas être tolérés indéfiniment. Aucun peuple, aucune communauté humaine ne peut exister sans loi et règles de vie, ni sans les représailles qui limitent les désordres. Il est certainement indispensable pour Dieu de poser les limites du péché, hein, et je ne crois pas que la miséricorde divine puisse être assimilée à la permissivité et au laxisme. Cela ne serait pas de l'amour. Au contraire, l'amour véritable veut la conversion et le perfectionnement intérieur de tout homme, et donc souhaite éduquer et redresser ceux qui poussent un peu de travers. Et cela demande de la fermeté, hein. Je pense que tous les parents doivent un jour ou l'autre s'en rendre compte. Donc pourquoi pas aussi Dieu, hein, qui est notre Père. C'est en tout cas en principe le rôle de l'Église, hein, que de conduire son peuple vers plus de justice et de vérité. Et c'est bien pour cela que le sacrement de réconciliation existe. Hein. Et je ne crois pas qu'une indulgence offerte, avec libéralité et sans exigence de transformation intérieure, aurait beaucoup de sens. Est-ce que Dieu ne veut pas que nous changions en nous ce qui ne va pas? Que nous devenions chaque jour plus ressemblants au Christ, chaque jour plus conformes à sa sainteté? Et quand même, bon, il reste que la question est toujours ouverte. Hein. Est-ce que la punition rend vraiment meilleur? Est-ce que la bonne méthode est d'infliger des châtiments? Bon, les avis divergent, hein, chez les pédagogues.
Oui, oui, c'est un vrai problème d'humanité. La question se pose même à grande échelle pour les nations. La justice, est-ce que punir est une solution. Rappelons-nous le livre de Michel Foucault en France vers les années 60, ça s'appelait « Surveiller et punir », ce livre tellement pessimiste quant à l'utilité de la répression. Pour Foucault, les châtiments ne sont là que pour le confort des dirigeants, on met les problèmes de côté, mais pas du tout pour éduquer les déviants. Bien au contraire, ça les enfonce. On dit souvent que la prison, c'est l'université du crime. On y rentre et on ressort avec un grand diplôme. Cette opinion est toujours répandue, même si on ne voit pas très bien comment un pays pourrait subsister sans une législation punitive. En tout cas, pour Jérémy, il est certain que la punition a du sens. C'est celui de redresser ce qui est tordu et de corriger ce qui est faux. Donc, pour lui, punir sert à remettre sur le droit chemin, comme dit l'expression. Et c'est un acte d'amour, celui de la dernière ressource, bien sûr, quand tout le reste a échoué. Mais c'est quand même une marque d'amour. La preuve en est le verset 23 du chapitre 9, où Dieu se définit lui-même en disant « Moi, le Seigneur, qui exerce sur terre la miséricorde, le droit et la justice. » Donc les trois sont associés. Le mot « miséricorde » traduit de l'hébreu, parce que tout ça c'est des traductions plus ou moins réussies parfois, mais c'est un mot recède qu'on peut traduire de nombreuses autres manières, comme amour, charité, grâce ou bonté. Et pour ma part, je préférerais qu'on dise bonté plutôt que miséricorde. En tout cas, le texte se continue par le châtiment de tous les incirconcis, comme toute la maison d'Israël, des incirconcis de cœur. Donc toujours une affaire de cœur. Le Dieu de bonté, de droit et de justice veut châtier les cœurs endurcis parce que en Dieu, bonté et justice ne sont pas séparables.
Et le chapitre suivant vient renforcer cette spécificité de Dieu en la confrontant aux idoles. Alors ce chapitre 10 est presque entièrement consacré à dénoncer les idoles, les faux dieux qui terrifient les nations, mais qui ne sont que vanité, des statues sculptées par des hommes comme dit le verset 5, donc du chapitre 10, je vous les lis, qui sont comme un épouvantail dans un champ, ils ne parlent pas, on doit les porter car ils ne marchent pas. La leçon de Jérémie est claire, au verset 6, n'ayez pas peur, ils ne peuvent faire du mal, mais du bien, pas davantage. Tout cela pour montrer l'opposition avec le Dieu véritable, donc plus loin le verset 10. Je vous le lis, « Mais le Seigneur est le Dieu véritable, c'est lui le Dieu vivant, Seigneur de l'univers, donc présent dans toute sa création et maître de la nature. » Je vous lis le verset 13, « Quand il fait gronder le tonnerre et que les eaux s'amassent dans les cieux, des extrémités de la terre, il lance des éclairs, il fait monter les nuages pour la pluie, il libère le vent qu'il tenait en réserve. » Donc le Dieu vivant d'Israël et de Juda est donc le tout-puissant créateur, le Dieu universel, et le maître de toute sa création. Alors, il faudra que nous revenions sur ce rapport de Dieu avec la nature, qui est très présent dans le livre de Jérémie. Obéir à Dieu semble bien être chez Jérémie du même ordre que de vivre en harmonie avec la nature. Cela rejoint l'idée que Dieu est bon, qu'il a créé un monde bon, comme dit le livre de la Genèse.
Oui, nous devrons reprendre ce thème la prochaine fois. Mais avant de terminer notre émission, je veux insister sur la fin du chapitre 10, qui est une prière du prophète, dont je vous lis le début, versets 23-24. « Seigneur, je le sais, l'homme n'est pas maître de son chemin. Celui qui marche ne peut diriger ses pas. Corrige-moi, Seigneur, avec justice, mais sans colère, sinon tu me réduirais à rien. » Voilà, Jérémie s'applique donc à lui-même les principes qu'il prêche à son peuple, à savoir que l'autonomie humaine est une illusion, que toute la vie dépend de Dieu et qu'il faut accepter de Dieu la correction, car c'est une nécessité vitale. Et ce n'est pas un problème que pour celui qui aime Dieu et se soumet à sa loi, c'est un problème uniquement pour ceux qui rejettent Dieu, car alors la correction est mêlée de colère, et la colère de Dieu renvoie l'homme à son néant. Il est temps à présent de nous quitter, et nous continuerons de suivre Jérémie dans son ministère prophétique lors de la prochaine émission. Au revoir, chers auditeurs, à très bientôt.
Au revoir Catherine, au revoir à tous, à bientôt.